XIe siècle, et nous avions vu l'échec de la croisade des pauvres gens, et nous avions vu ensuite comment quatre armées de chevaliers avaient convergé vers Constantinople, avaient traversé l'Asie mineure en force après avoir fait voler en éclats une armée musulmane qui avait tenté de les bloquer, victoire qui avait été décisive, qui avait été une victoire stratégique majeure, car si l'armée croisée avait été défaite à cet endroit-là, c'en était fait du rêve des croisades, mais là, cela ouvrait soudain des perspectives tout à fait importantes, d'autant que les musulmans étaient impressionnés par la puissance de l'armée franque, et cela allait jouer indiscutablement sur le moral des armées musulmanes dans la suite, jusqu'à ce qu'à leur tour, ils remportent des victoires décisives de ce type-là. Mais là, il est évident que les croisés, par cette victoire, on peut dire, avaient tiré le gros lot. Ils avaient fait exactement ce qu'il fallait faire pour impressionner leurs ennemis, et tout était possible devant eux. Nous avons vu que le 21 août 1097, les armées franques étaient arrivées sous les murs d'Antioche, qui était la plus importante des places fortes de l'Orient, laquelle avait appartenu à Byzance quelques années encore auparavant et qui était tombée entre les mains des musulmans. C'était, comme nous l'avons dit, la place forte la plus redoutable de l'Orient. Elle avait une enceinte de 12 000 mètres. Elle comptait 360 tours. Ni plus ni moins. Et les défenses de la ville s'étageaient sur trois niveaux. En outre, sur un de ses côtés, la ville était protégée par l'Oronte, le fleuve qui la traverse. Donc autant dire qu'elle était imprenable du côté du fleuve. Quant aux autres côtés qui n'étaient pas protégés par le fleuve, il y avait des pentes escartées, escarpées et abruptes, telles que leur escalade était extrêmement difficile. En clair, on peut dire que la ville ne pouvait pas être encerclée. Ne serait-ce que justement qu'à cause du fleuve, et il était toujours possible de faire parvenir des renforts, de faire parvenir du ravitaillement par l'intermédiaire du fleuve. Mais ce n'était même pas utile, car la ville avait des réserves alimentaires importantes. Et non seulement cela, mais à l'intérieur même des murailles, il y avait des places qui pouvaient être cultivées. La ville comprenait environ 40 000 habitants, ce qui était considérable pour l'époque. Et par conséquent, c'est sûr que là, c'était l'endroit rêvé pour tenter de renverser la vapeur en ce qui concerne les forces musulmanes, et de bloquer les Francs. Seulement, il y avait un problème. C'est que les musulmans étaient divisés entre eux, et c'est ce qu'allait les perdre. Ils n'ont pas réussi, pendant toute la durée du siège, à se mettre d'accord pour secourir la ville. Cependant, malgré cette situation favorable, le siège d'Antioche, pour les Francs, fut loin d'être une partie de plaisir. D'abord, très rapidement, on était en plein été, évidemment, très rapidement, les Francs ont commencé à souffrir de la faim. Et il est certain que le siège s'est très rapidement enlisé. Les chefs de l'expédition se sont très vite rendus compte qu'il n'était pas question de prendre la ville par un assaut frontal, et le moral est rapidement tombé au plus bas. Il y avait parmi les chefs francs un homme qui avait des ambitions particulières, c'était Bohémond. Bohémond se trouvait à peu près le personnage le plus important autour d'Antioche, dans la mesure où Tancrède et Baudouin l'avaient laissé pour aller mettre, eux, le siège pour mettre le siège en Cilicie, notamment devant la ville d'Édesse. Et Bohémond a très vite compris le parti qu'il pouvait trouver, qu'il pouvait profiter de cette situation-là. Il a galvanisé le courage des troupes franques défaillantes, leur promettant, évidemment c'était un pari qu'il faisait, c'était un quitte ou double audacieux, mais il se disait que s'il parvenait à s'emparer d'Antioche, eh bien, il avait de bonnes chances d'être le premier personnage des États latins d'Orient qui ainsi se seraient créés à la suite de cela. Et Bohémond, qui était fort rusé, nous l'avons vu dans ses tractations avec Alexis Comnène, l'empereur de Byzance, Bohémond a conclu un marché avec les barons qui étaient autour d'Antioche. Il se faisait fort, lui, de s'emparer de la ville, mais en échange, il demandait que la ville lui soit remise, qu'elle devienne sa possession personnelle. Il y avait pourtant là un problème. Souvenez-vous que les barons avaient juré serment de vassalage à l'empereur Alexis Comnène, et au terme de ce serment, toutes les villes qui avaient appartenu à Byzance et qui seraient reprises par les Francs devaient être remises au Basileus, c'est-à-dire à l'empereur. Bohémond, donc, ici, demandait aux autres barons rien de moins que de se parjurer, d'être infidèle à leur serment. Mais la situation était tellement critique que les barons ont accepté l'offre de Bohémond et Bohémond a donc pris les choses en main. Son premier devoir, ça a été de faire entrer des espions à Antioche. Et il a pu ainsi être tenu au courant de l'état de la situation à l'intérieur de la ville, et notamment du fait qu'il y avait des divisions importantes. Il a été très vite averti qu'il existait un litige important entre les deux califes, celui de Bagdad et celui du Caire. Et très habilement, Bohémond a décidé de jouer de cette rivalité. Néanmoins, malgré les promesses de Bohémond, le siège ne progressait guère. Pourtant, le 6 février 1098, une bonne nouvelle est parvenue aux assiégés. Édesse était tombée entre les mains de Baudouin et de Tancrède. Cette nouvelle, évidemment, a réjoui les Francs, mais a jeté la consternation dans le camp des musulmans. Et c'est alors que le chef de la ville, le chef musulman de la ville qui se nommait Yagi Sigan, a expulsé tous les chrétiens qui se trouvaient à l'intérieur de la ville, les chrétiens autochtones, donc de rite grec. Il craignait en effet que parmi eux, il y ait une cinquième colonne. Il n'avait d'ailleurs pas tort, car c'est au sein de ces chrétiens-là que Bohémond avait trouvé ses espions. C'est alors que Yagi Sigan a décidé d'envoyer des espions ou des messagers pour chercher des renforts. Il a compris que la situation était bloquée. Les Francs ne parvenaient pas à prendre la ville parce que les défenses étaient trop considérables, mais d'un autre côté, lui n'avait pas les moyens nécessaires pour tenter une sortie qui aurait anéanti l'armée franque. Il fallait donc chercher du renfort. Et ainsi, il a expédié son fils, le prince héritier, par le Ronde pour chercher des secours. Hélas, ces appels sont restés vains. En effet, aucun prince musulman ne se sentait menacé. Et les musulmans n'avaient pas compris l'importance du danger franc. Ils n'avaient pas compris que les Francs étaient venus pour rester. En outre, l'invasion franque n'avait pas fait cesser les guerres intestines que les princes musulmans se livraient entre eux. Et pendant que le siège d'Antioche battait son plein, une guerre terrible entre le roi d'Alep, qui se nommait Bashvan, et son frère Doulak, qui était roi de Damas, battait également son plein. Maintenant, il faut dire que ce Rajvan avait été lui-même une sorte d'otage d'une secte dont nous aurons l'occasion de reparler, qui venait juste de se créer à cette époque-là, qui se nommait la secte des assassins. Et ces assassins, qui souvent étaient drogués, que l'on disait pratiquer également la sorcellerie, éliminaient sans pitié tous ceux qui le résistaient. Et les assassins avaient décidé de s'emparer de Damas, et pour cela, ils utilisaient le roi d'Alep pour essayer de dominer son frère. Yagishigan, donc le gouverneur d'Antioche, a commencé par envoyer son fils chercher des renforts auprès de Doulak, roi de Damas. Mais Doulak était bien trop effrayé des menées de son frère, roi d'Alep, pour dégarnir ses forces et les envoyer au secours de Yagishigan qui était assiégé dans Antioche. Si bien qu'il a longuement hésité avant de répondre à l'invitation du sultan, et ce n'est que 2 mois après la démarche du fils de Yagishigan que Doulak s'est mis en marche, enfin. Il n'a pas été très loin. Le 31 décembre, il rencontrait une colonne franque et la rencontre se terminait par la défaite des musulmans. Doulak n'a pas insisté, il est rentré chez lui à Damas. Et que Yagishigan, à Antioche, se débrouille avec les Francs. Pourtant, il n'aurait pas fallu grand-chose pour que la croisade puisse s'arrêter là, tragiquement. Dans le camp des Francs, le moral continuait à baisser considérablement. Yagishigan, voyant qu'il n'avait rien à attendre du côté de Doulak, s'est tourné vers son frère et lui a demandé du secours. Les Francs ont eu vent de l'affaire, et Bohémond, pour donner un avertissement sans frais à Rajvan, a envoyé des chevaliers ravager les terres d'Alep, comme un avertissement, en disant qu'il avait intérêt à rester tranquille s'il ne voulait pas d'ennui avec les Francs. Ce que Rajvan s'est tenu pour dit, et il n'a pas non plus insisté, laissant Yagishigan se débrouiller. Le 2 février 1099, une nouvelle défaite turque a eu lieu et Yagishigan, la mort dans l'âme, s'est décidé à faire appel au gouverneur militaire de Mossoul lui-même qui se nommait Karkouba. En avril 1098, ce Karkouba s'est mis en marche vers Antioche. Mais souvenons-nous qu'entre-temps, les Francs avaient pris Édesse. Et Karkouba s'est soudain trouvé dans une situation difficile. Il risquait, s'il s'enfonçait en direction d'Antioche, d'être pris en tenaille entre d'une part les forces de Bohémond qui étaient à Antioche et les forces de Baudouin qui venaient maintenant de retrouver leur liberté de mouvement vu qu'Édesse était tombée. Et Karkouba a donc décidé de neutraliser d'abord Édesse. Il a marché sur Édesse pour tenter de la reprendre. Il a mis le siège contre la ville, mais il n'a pu la prendre des mains de Baudouin qui l'a défendue avec opiniâtreté. Donc, pendant ce temps-là, la situation était toujours bloquée devant Antioche, et ni d'un côté ni d'autre on ne progressait. Le siège était bloqué, et en même temps, dans les deux camps, le moral était au plus bas. C'est alors que Bohémond a compris qu'il fallait qu'on sorte de l'impasse. Il a finalement trouvé un agent double. Grâce à ses intrigues à l'intérieur de la ville, il a déniché un certain Firouz, qui était un fabricant de cuirasses. Et ce Firouz en question, qui était pourtant musulman, avait été accusé faussement par le sultan, Yagishigan, de se livrer au marché noir. Il en avait conçu une rancune tenace contre le sultan, et il avait décidé de se venger. C'est pourquoi il avait pris langue avec les envoyés de Bohémond et ainsi il a décidé de trahir.
Le plan a donc été soigneusement élaboré entre Bohémond et Firouz, et il avait été décidé que le 3 juin à l'aube, Firouz monterait sur la tour qui dominait sa demeure, et de là il neutraliserait les sentinelles, et que de nuit donc les envoyés, les Francs, escaladeraient la tour, et par cette tour-là, il pensait ainsi pouvoir s'introduire dans la ville. Ainsi en a-t-il été. À l'aube du 3 juin, 500 hommes ont réussi à pénétrer à l'intérieur de la ville par la tour en question. Mais quand les musulmans se sont rendus compte que les Francs étaient ainsi en train de pénétrer dans la ville, la résistance et la riposte a été rapide et immédiate. Le fils de Yagishigan lui-même est venu à la rescousse et une terrible bataille a eu lieu dans la citadelle de la ville. Et c'est alors que Karkouba, enfin, s'est mis en route en direction d'Antioche. Il était à 3 jours de marche d'Antioche quand ces événements se sont produits. Il était donc, si vous voulez, c'était donc l'extrême limite, et bientôt les Francs se sont retrouvés à leur tour assiégés dans Antioche. Antioche qui était loin d'être tombé en totalité. Les Francs contrôlaient la citadelle de la ville, mais l'essentiel de la ville leur échappait encore. Et ils se trouvaient dans une situation extrêmement critique, car donc d'une part, la ville résistait toujours, et puis à l'extérieur, ils étaient à leur tour encerclés par les troupes qui venaient de Mossoul, les troupes musulmanes qui venaient de Mossoul. À nouveau, panique dans les rangs des Francs. Bohémond n'était pas, heureusement, peut-on dire ça pour les Francs, il n'était pas à une astuce près, et alors il a compris que seul un choc psychologique pouvait galvaniser les Francs et les amener à sortir de l'impasse. Il a secrètement fait enterrer une lance, une vulgaire lance de ses soldats, et il a fait courir le bruit qu'il avait eu un songe et que le songe lui avait révélé que dans un certain endroit se trouvait enterrée la lance qui avait percé le flanc du Christ sur la croix. Le lendemain, quelques soldats se sont précipités au lieu dit par la pseudo-vision. Bien entendu, on a trouvé la lance miraculeuse, la relique qui a été exhibée triomphalement, qui a été promené en procession devant les troupes, et effectivement, ce que Bohémond attendait s'est produit. Le choc psychologique a eu lieu. Soudain, transportés d'enthousiasme, croyant que la relique les rendait invincibles, les Francs se sont jetés à l'assaut. Et les Turcs ont été massacrés sans difficulté. Le reste de la ville est tombé. Seulement, on avait réussi à s'emparer de la ville. Seulement, l'armée irakienne qui était autour de la ville restait encore à vaincre. Et les Francs, qui avaient souffert de la famine pendant qu'ils assiégeaient la ville, se sont retrouvés maintenant, objets de la famine, à l'intérieur de la ville, assiégés qu'ils étaient. D'assiégeants, ils sont devenus assiégés. Mais la situation était aussi bloquée qu'auparavant. La situation était tellement critique, racontent les chroniqueurs, que les Francs n'étaient arrivés à abattre les chevaux pour avoir un peu de quoi manger et même à boire leur urine. Bohémond s'est installé à Antioche et il attendait un miracle pour se sortir de cette situation-là. Il continuait à intriguer grâce à ses espions. Et c'est ainsi que sont arrivés à Antioche, par quelle voie secrète, des envoyés du Caire qui ont proposé aux Francs une alliance. Le sultan du Caire acceptait que les Francs gardent Antioche à la condition que les croisés leur abandonnent la Palestine, laquelle Palestine, et notamment Jérusalem, était entre les mains des califes de Damas et qui était convoitée par le calife du Caire. Donc, il s'agissait tout simplement ici, pour les Francs, de s'allier avec le Caire contre Damas, et ils étaient certains d'avoir les mains libres dans cette région-là. Évidemment, le calife du Caire commettait une grossière erreur. Il n'avait pas compris que le but des Francs, c'était Jérusalem, Ils n'avaient pas compris tout ce que Jérusalem représentait sur le plan mystique, sur le plan religieux pour les Francs. Bien sûr, quand Bohémond a reçu l'ambassade du Caire, il s'est bien gardé de les détromper. Et l'accord a été conclu. C'est-à-dire, le Caire abandonnait Antioche entre les mains des Francs et les Francs abandonnaient Jérusalem entre les mains des Égyptiens. Les envoyés du Caire sont retournés fort satisfaits, non sans avoir reçu d'ailleurs des Francs un cadeau. Cadeau pour sceller l'amitié, les petits cadeaux entretiennent l'amitié, c'est bien connu. Le cadeau en question consistait en 300 têtes de Turcs. Bien. Le 20 octobre 1098, les Égyptiens s'emparaient de Jérusalem qu'ils prenaient aux Turcs. Pendant ce temps-là, les Francs étaient toujours assiégés dans Antioche. Et c'est alors que le miracle s'est produit. Il s'est produit sous la forme d'une escadre de navires génois qui sont arrivés transportant du matériel de siège. Et grâce au matériel de siège, eh bien, il a été possible d'envisager une sortie. Une sortie d'ailleurs qui a été soigneusement préparée par Bohémond et qui a pris les Turcs tout à fait par ruse. Et soudain, après avoir été bombardés par les pierriers des assiégés, les Turcs ont vu les Francs sortir avec une fougue et une impétuosité qui les a complètement bousculés. Il faut dire que les Turcs ont commis de nombreuses fautes aussi tactiques et la résistance n'a pas été terrible. Dès qu'ils ont vu les choses tourner en leur défaveur, les Turcs se sont débandés sans aucune vergogne. Et la victoire franque a été totale. Les Francs se sont ensuite emparés d'un énorme butin que les assiégeants ont laissé sur place, ce qui les a payés en quelque sorte de toute leur fatigue et leur a permis de se refaire, ce dont ils avaient bien besoin après ce terrible siège d'Antioche, avant de marcher sur Jérusalem. Le but, en effet, c'était Jérusalem. Mais il n'était pas question de marcher tel quel sur Jérusalem. D'ailleurs, Bohémond, lui, qui était devenu donc prince d'Antioche, se souciait fort peu de Jérusalem. Pour lui, le but de la croisade était atteint. Il n'avait jamais eu des sentiments religieux très, très, très fervents. Et lui, il était d'accord de garder l'accord qui avait été conclu avec les envoyés du Caire, abandonner Jérusalem entre les mains des Égyptiens, ne le dérangeait pas. Il a eu donc, pendant quelques mois, des discussions très véhémentes entre les différents barons qui se trouvaient à Antioche pour savoir si on allait ou non poursuivre l'avance vers Jérusalem. Finalement, des hommes comme Godefroy de Bouillon, qui lui était un homme au contraire qui était animé d'une ferveur religieuse certaine, ont réussi à rappeler aux croisés leur serment. Et le 13 janvier 1099, les croisés ont repris leur marche vers Jérusalem. Bien sûr, les choses n'étaient pas si simples. Entre-temps, Jérusalem était tombée entre les mains des Égyptiens, nous l'avons vu, et elle était défendue par des Soudanais. Des Soudanais qui avaient été laissés en garnison par le sultan. Elle était ravitaillée en eau par des sources qui se trouvaient donc dans un lieu qui s'appelle aujourd'hui Enchemed, qui s'appelle en souvenir des croisés Aqua Bella, situé au pied de la montagne, ceux qui connaissent un peu Jérusalem, au pied du castel. Et donc, la ville, depuis novembre 98, était entre les mains des Égyptiens. Le siège avait eu lieu dans des conditions d'ailleurs dramatiques, puisque la capitulation de la place avait entraîné de la part des Égyptiens un véritable carnage. Ils n'étaient pas gênés pour massacrer leurs frères, n'est-ce pas, bien que musulmans comme eux. Pendant ce temps, donc, les croisés reprennent leur marche en direction de Jérusalem, à la grande surprise du sultan, qui croyait que les croisés allaient être fidèles au serment, à l'alliance qu'ils avaient conclue avec lui. Seulement, les croisés n'en étaient pas à un parjure près, nous l'avons vu déjà avec la prise d'Antioche. Et les croisés, au passage, vont s'emparer d'un certain nombre d'autres places fortes. Ils ne vont pas marcher directement sur Jérusalem, mais ils vont préserver leurs arrières. C'est ainsi qu'ils arrivent, donc dès le début de l'année 99, ils arrivent devant la place, une place qui s'appelle Marawa, dont ils vont s'emparer sans coup férir, et là, ils vont massacrer. Hommes, femmes, enfants, toute la population, sans aucune vergogne. Et les chroniqueurs, tant arabes que chrétiens, sont tous d'accord pour évoquer des scènes absolument terribles, notamment le fait que des enfants musulmans, ont été rôtis à la broche et mangés grillés. Mangés grillés, donc des actes d'anthropophagie qui ont été accomplis par les Francs. Le chroniqueur du nom de Raoul de Roux rapporte l'événement. Et les chroniqueurs musulmans le confirment de leur côté. Donc il y a eu des scènes d'anthropophagie lors de la prise de cette ville-là. Évidemment, ces nouvelles ont terrorisé les Turcs quand ils ont appris que les Francs se livraient à l'anthropophagie. C'est un vent de terreur qui s'est abattu sur toutes les populations turques. Et dès lors, la réputation d'anthropophagie des Francs s'est propagée dans le monde musulman jusqu'à aujourd'hui. Bon, il n'y a eu qu'un cas. Enfin, c'est trop déjà, bien sûr. Mais enfin... l'imagination musulmane a joué là-dessus et partout où les Francs seraient passés, il y aurait eu des actes d'anthropophagie. En fait, ça n'est rapporté que dans cet endroit-là. En tout cas, la réputation d'anthropophagie des Francs s'est répandue jusqu'à ce jour parmi les Arabes. Il n'empêche que cet acte d'anthropophagie donnait le ton, était sur le plan proprement, comment dirais-je, psychologique, quelque chose qui allait donner un avantage certain aux Francs, parce que les Turcs terrorisés étaient décidés à ne plus défendre, en tout cas craignant de subir à leur tour ce sort terrible. Et c'est ainsi que dans leur marche vers Jérusalem, les croisés s'emparent du Krak des Chevaliers. Du Krak des Chevaliers, une forteresse au sein des montagnes du Liban qui défendait un carrefour de route extrêmement important et qui dès lors va devenir le quartier général des armées croisées lors de la marche des Francs sur Jérusalem. Les musulmans se souviennent alors du vieil adage du Coran « Le bras que tu ne peux casser, embrasse-le et prie Dieu pour qu'il le casse ». Et c'est alors que l'on voit des choses étonnantes. Au fur et à mesure de l'avance des Francs en direction de Jérusalem, sans aucun combat, sans aucune résistance, des villes musulmanes entières font leur soumission. Bannières en tête, viennent offrir aux croisés des vivres, du ravitaillement, de menus cadeaux, etc., leur ouvrant toutes grandes les portes de leur ville. C'est le cas notamment de Tripoli, de Djebal, qui appartenait à l'Égypte. Et soudain, le sultan du Caire, qui se nomme Al-Afdal, voit avec stupéfaction les Francs avancer vers le sud. Un peu tard, il comprend qu'il a été joué. Et d'urgence, pour tenter d'enrayer l'avance franque, il tente de nouer une alliance avec Constantinople. Constantinople, où on est aussi un peu amer, notamment après la prise d'Antioche, car Alexis Comnène a aussi l'impression d'avoir été joué par les Francs, puisque Antioche ne lui a pas été rendu, contrairement aux accords qui avaient été conclus avec les croisés. Alexis Comnène rêve bien évidemment de récupérer la Syrie du Nord et il serait éventuellement prêt à s'allier avec le Caire pour tenter d'endiguer les Francs. Voyez-vous, on arrive à des choses tout à fait paradoxales, étonnantes. Les musulmans qui se trahissent entre eux et les chrétiens qui se trahissent aussi entre eux. C'est tout l'ambiguïté des croisades. Le 19 mai 1099, les Francs atteignent Beyrouth, Sidon, Tyr et Akko. Terrorisés par les actes d'anthropophagie dont nous avons parlé, de nombreux réfugiés fuient ces villes. Réfugiés musulmans qui descendent vers le sud. Les croisés reprennent leur marche et le 7 juin, ils atteignent Nabi Samuil, le tombeau du prophète Samuel, où ils aperçoivent pour la première fois la ville sainte. Les chroniqueurs de l'époque racontent que ce fut un enthousiasme indescriptible. Les chevaliers mettent pied à terre et se mettent à pleurer, à chanter les louanges, chanter des psaumes. Et Nabi Samuil va devenir, dans la langue des Francs, mon joie, le mont de la joie qui a été manifestée lorsque les croisés ont aperçu la ville sainte. Le lendemain, ils atteignent Abou Ghosh, situé à quelques kilomètres de là, un village arabe qui existe encore aujourd'hui. Et c'est alors que Tancred, qui a planté son camp non loin du village et de la source d'eau qui s'y trouve, il trouvait s'abreuver, Tancred, soudain, est surpris par une délégation de chrétiens grecs de Bethléem, qui ont appris l'arrivée des Francs et qui crient au secours, disant « Voilà, les musulmans sont prêts de nous massacrer, de massacrer les chrétiens de Bethléem, et ils demandent à Tancred d'intervenir. » Tancred n'hésite pas. Le lendemain même, à marche forcée, il se dirige vers Bethléem, dont il s'empare sans coup férir, délivrant ainsi les chrétiens menacés, et en particulier l'église de la Nativité, qui est le premier lieu saint à tomber entre les mains des croisés. Lieu saint d'importance, puisque c'est ni plus ni moins, selon la tradition des croisés, le lieu de la Nativité du Christ. Il faut dire que le gouverneur soudanais de Jérusalem, qui se nomme Iftikhar, a chassé les chrétiens orientaux qui se trouvaient dans la ville de Jérusalem. Pour les mêmes raisons que l'avait fait Yagishigan à Antioche, il craint en effet que ces derniers ne soient des alliés potentiels des Francs. Si bien que ces chrétiens-là se sont aussi réfugiés à Bethléem et ils accueillent Tancred comme un libérateur. Tancred le Normand, Tancred qui devient ainsi le prince de Bethléem. Et encore dans l'église de la Nativité, les offrandes, je crois, même les armes que Tancred a, avec lesquelles il a délivré Bethléem, qui sont là, exposées dans une des niches de la basilique. Le lendemain, donc, les Francs tout entiers, l'armée franque, reprend sa marche vers Jérusalem. Et là, l'armée est tellement transportée d'enthousiasme que on emploie la tactique d'Obélix, on écrase tout et puis on s'en va. Donc, attaque frontale contre Jérusalem. Seulement, les défenses de Jérusalem ne valent pas celles d'Antioche, mais elles sont tout de même redoutables. Elles sont à peu près, si vous voulez, la Jérusalem des Francs occupe la même superficie que la vieille ville actuelle. Les murailles actuelles sont reconstruites sur les ruines des murailles que les croisés ont prises. On a une petite idée en voyant les murailles modernes de ce que pouvaient être les murailles de Jérusalem à l'époque des Francs. Donc échec total de l'attaque frontale. Les croisés comprennent que ça ne va pas être aussi facile que cela, mais qu'ils doivent envisager un siège. Nous sommes en plein été, il fait une chaleur torride. Dans leur boîte de fer blanc, évidemment, les croisés mijotent comme on peut l'imaginer, c'est pas la joie. Les Turcs, devant l'avance, les Égyptiens, pardon, devant l'avance des croisés, ont bouché toutes les sources. Aux environs de Jérusalem, il est pratiquement impossible de s'approvisionner en eau. Les Francs souffrent abominablement de la chaleur et de la soif. On fait des queues, les guerriers font des queues pendant des heures et des heures pour recevoir un petit seau d'eau qui doit leur servir pendant au moins d'abord la journée, puis ensuite pendant plusieurs jours. Il faut économiser l'eau au maximum. C'est souvent une eau boueuse, il y a la dysenterie, enfin vous voyez ce que ça peut donner. La situation des croisés n'est pas brillante. Et c'est pourquoi les responsables de l'expédition comprennent qu'il faut en finir vite et qu'il n'est pas question de mener un siège de longue durée comme ce fut le cas devant Antioche. La ville comprend à peu près 20 000 habitants. Elle est assiégée par 40 000 croisés qui se répartissent entre les chevaliers, 1500 chevaliers, guère plus, et puis le reste des fantassins. Le 2 juillet, les croisés décident de construire des tours d'assaut de façon à prendre la ville de vive force, non pas dans un siège, mais réellement un assaut qui pourrait permettre une décision rapide. Mais le jour même, ils vont, je ne sais pas si est-ce qu'ils attendent un miracle ou quoi, est-ce que c'est le souvenir de l'affaire des murailles de Jéricho, toujours est-il que ils engagent une procession solennelle, bannière en tête, grande croix en tête, n'est-ce pas, autour de Jérusalem, à la grande stupéfaction des musulmans qui se demandent ce qu'ils peuvent bien fabriquer là, quelle ruse de guerre ils sont en train de mijoter. Bien sûr, le miracle ne se produit pas, les murailles de Jérusalem ne s'écroulent pas, à l'instar de ce qui s'était produit à Jéricho, et les croisés en sont réduits à envisager des moyens plus prosaïques pour s'emparer de la ville, notamment en construisant ces deux tours. Les chevaliers se répartissent le périmètre de Jérusalem. Robert de Normandie aura pour mission de tenter un assaut par le nord, notamment auprès de la porte de Damas. Robert de Flandre s'emparera de l'angle nord-ouest. Il a son camp à peu près à l'emplacement de Notre-Dame de France moderne, la grande hôtellerie catholique qui se trouve aujourd'hui dans cet endroit-là. Godefroy de Bouillon et Tancrède attaqueront face à la citadelle, c'est-à-dire face à la porte de Jaffa. Et enfin, Raymond de Saint-Gilles attaquera par le sud, c'est-à-dire dans le secteur du Mont-Sion. Il faut dire que la situation des Francs est encore aggravée par le fait que il y a un danger d'intervention syrienne. Les musulmans commencent à comprendre l'importance du danger que représentent les Francs et ils sont en train d'enterrer leur hache de guerre. Des négociations ont lieu pour que les Syriens viennent au secours de Jérusalem. Il faut donc faire vite. Un siège prolongé est tout simplement impensable. Donc on construit des machines de guerre, non seulement les tours en question, les deux grandes tours d'assaut, mais également des pierriers. Grâce à des bateaux génois que l'on va démonter. Une flotte génoise est arrivée à apporter du ravitaillement, car les croisés sont dépendants pour le ravitaillement des flottes génoises, phéniciennes, pisanes, qui viennent d'Italie notamment. Et là, devant la situation, juste comme cette flotte venait d'aborder, on réquisitionne les marins qui démontent leurs bateaux. Ils reviendront comme ils pourront, à pied ou à la nage sûrement. Mais grâce à ces bateaux-là, on a du bois parce que, évidemment, les musulmans ont coupé tous les bois qui pourraient être utilisés par les chrétiens pour fabriquer des machines. Mais là, justement, les bateaux vont servir d'approvisionnement pour construire les fameuses machines de siège. Plusieurs attaques sont lancées, elles sont repoussées. En effet, les musulmans disposent d'une arme terrible, le feu grégeois. C'est un petit peu l'ancêtre des cocktails Molotov. C'est tout simplement du pétrole qui est enflammé et que l'on projette sur les machines de bois qui s'enflamment. La deuxième semaine de juillet, donc, plusieurs attaques ainsi sont repoussées par l'intermédiaire du feu grégeois notamment. Le 10 juillet, les Francs attaquent par le sud et par le nord, à la fois par la porte de Sion et par la porte de Damas. Le 14, l'assaut est lancé par, en fait c'était trois tours qui ont été construites. Les musulmans ripostent et grâce au feu grégeois, ils incendient la tour qui attaquait la région du Mont Sion. Et ça, malgré les précautions qui ont été prises par les Francs, qui ont pris le soin d'enduire ces tours de peaux de bêtes fraîchement tuées, qu'ils imbibent constamment d'eau et de vinaigre pour empêcher le feu de prendre. Malgré cela, il fait tellement chaud et tellement sec que ce liquide jeté sur la tour sèche au fur et à mesure et le feu prend dans la tour et la tour est... brûle les quelques croisés qui ont réussi à s'introduire dans la ville sont massacrés. Donc il ne reste plus que deux tours, c'est un revers très grave pour les croisés. Godefroy de Bouillon, lui, dispose d'une de ces tours à l'angle nord-est. Et il est plus chanceux que son collègue Raymond de Saint-Gilles. Le 15, il parvient à prendre pied sur la muraille nord. Un combat terrible a lieu sur la muraille nord, qui, à la fin de la journée, est prise. Depuis la muraille nord, les croisés pénètrent sur l'esplanade du temple. Et les musulmans refluent, non seulement les musulmans, mais également les chrétiens. Les chrétiens qui se sont maintenus dans la ville malgré tout, il en est resté quelques-uns, se rassemblent sur l'esplanade du temple, espérant qu'on va les repérer comme chrétiens, mais les croisés sont tellement ivres de carnage et de sang qu'ils ne font pas de détails, ils n'hésiteront pas à massacrer tous les chrétiens. Tous les chrétiens grecs qui se trouvent à l'intérieur de l'esplanade du temple vont être massacrés sans coup férir par les croisés. Chrétiens ou pas chrétiens, peu importe, hop, on les assassine, Dieu reconnaîtra les siens. Dans l'après-midi du 15, Raymond de Saint-Gilles parvient à escalader la muraille parce que la nouvelle, évidemment, de la prise du secteur nord de la ville a fait en sorte que le moral des défenseurs musulmans s'est plus ou moins effondré. Et sans sa tour, grâce à des échelles, Raymond Saint-Gilles parvient à prendre pied sur la muraille sud. Et dans la soirée, les deux chefs, donc Godefroy et Saint-Gilles, font leur jonction. Autant dire que la ville est prise. Le soir, c'en est fait. Et alors là, c'est quelque chose d'épouvantable. Les croisés vont commettre des massacres ignobles, terribles. Tout ce qui leur tombe sous la main, hommes, femmes, enfants, vieillards, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, tout ça, peu importe, tout est massacré, tout. Et les chroniqueurs de l'époque racontent que l'on voyait le soir du 15, n'est-ce pas, des ruisseaux de sang qui dévalaient les ruelles de Jérusalem. Là, un des épisodes les plus abominable de cette soirée du 15, c'est lorsque les croisés rassemblent tous les juifs dans leur synagogue et ils mettent le feu aux synagogues comme le feront les nazis des années plus tard. Les juifs donc de Jérusalem sont impitoyablement massacrés. Et alors, chose paradoxale, n'est-ce pas, après avoir ainsi massacré d'une manière éhontée, abominable, les croisés arrivent dans l'église du Saint-Sépulcre, qui était le but de leur pèlerinage. Et là, leurs épées encore rouges du sang de tout ce qu'ils ont massacré, ils s'agenouillent sur l'endroit supposé du Saint-Sépulcre, et c'est des louanges, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à prier, etc. Les processions, les psaumes montent vers le ciel jusque tard dans la nuit, c'est un moment d'exaltation particulièrement important. Les musulmans se sont repliés dans la citadelle qui tient toujours. La citadelle est le seul endroit qui tient toujours. Saint-Gilles propose aux musulmans la reddition et il leur promet la vie sauve. Les musulmans acceptent ce marché et de fait les défenseurs vont pouvoir refluer en direction de la côte où ils s'installent à Ashkelon. La défaite des Francs est totale. Mais en même temps, le but de la croisade est atteint, Jérusalem est libérée, le Saint-Sépulcre est à nouveau sous la domination des chrétiens. Et la plupart des chevaliers croisés, ayant accompli leur serment, une fois la fameuse soirée de prière dans l'église du Saint-Sépulcre terminée, dès le lendemain, ils reprennent la route de la côte pour s'embarquer en direction de l'Europe. Ils rentrent. si bien que, quelques jours après la prise de Jérusalem, il reste en tout et pour tout pour défendre Jérusalem et toutes les possessions de Terre Sainte, c'est-à-dire les possessions qui s'étendent autour d'Antioche jusqu'à, disons, tout le sud du Liban, si vous voulez, jusqu'au nord de Veracruz, tout ça. Eh bien, il reste en tout et pour tout 300 chevaliers, pas un de plus, 300 chevaliers dans toute la Terre Sainte et plusieurs milliers de piétons. Autant dire que si les musulmans s'étaient ressaisis à ce moment-là, les chrétiens étaient balayés comme un fétu de paille. Mais les musulmans à cette époque-là étaient dirigés par ce que l'on pourrait appeler les califes fainéants, de la même manière qu'il y a eu les rois fainéants en France, en Europe, eh bien on peut dire qu'il y a à cette époque-là les califes fainéants qui ne réagissent pas. Parmi les barons qui restent en Terre Sainte, il y en a deux essentiellement, Saint-Gilles et Godefroy. Avant de partir, les barons se rassemblent pour décider d'un leadership qui va, en quelque sorte, prendre la tête des États francs. Bien entendu, Saint-Gilles, intrigant, a bel et bien l'intention de se faire nommer roi de Jérusalem. Mais justement, il l'est trop. Et les barons élisent un homme beaucoup plus humble et beaucoup plus digne de cette charge, Godefroy de Bouillon, qui s'est dépensé sans compter pour le succès de cette expédition-là et qui est encore prêt à payer de sa personne puisqu'il est un des rares à accepter de rester sur place. Et on lui propose de devenir roi de Jérusalem. Mais Godefroy, par humilité, il prendra simplement le nom de avoué du Saint-Sépulcre, c'est-à-dire défenseur du Saint-Sépulcre. Il ne veut pas, déclare-t-il, poser sur sa tête la couronne de roi à l'endroit où le Christ n'a porté qu'une couronne d'épines. 20 jours après le départ des barons, une armée égyptienne arrive sous les murs de Jérusalem, commandée par le vizir en personne. La situation pour les croisés est dramatique. Et d'autant plus dramatique que les autres barons qui sont restés dans la région guerroient chacun pour sa part. Tancred, par exemple, est en train d'assiéger Naplouse et en même temps, il est évidemment neutralisé pour la défense de Jérusalem. Mais les Égyptiens, fort heureusement pour les croisés, n'exploitent pas leur avantage. Ils ne comprennent pas l'occasion historique unique qu'ils ont de balayer la croisade. Et plutôt que d'assiéger Jérusalem, les musulmans descendent sur la côte pour essayer de s'emparer des ports, pour empêcher le ravitaillement des croisés et l'arrivée de renforts depuis l'Europe. Et c'est ainsi que, sans coup férir, ils s'emparent d'Ashkelon, que les croisés, évidemment, trop faibles, trop peu nombreux, ne peuvent défendre. Finalement, en rameutant leurs forces, en faisant venir quelques renforts de ça et de là, les croisés parviennent à rassembler 1200 chevaliers et 9000 fantassins. Ils ont en face d'eux des armées égyptiennes qui sont 5 fois supérieures. Mais encore une fois, la bravoure, la vaillance et l'abnégation de Godefroy va faire pencher la balance en faveur des croisés. Avec une fougue et une impétuosité incroyables, Godefroy attaque les Égyptiens et inflige à l'armée égyptienne une défaite totale. Il marche d'Erechef sur Ashkelon, mais les croisés se disputent entre eux pour savoir qui va s'emparer d'Ashkelon, qui va avoir le fief d'Ashkelon. Résultat, eh bien personne ne prend la ville et pendant des années et des années, Ashkelon va rester entre les mains des Égyptiens comme une épine dans le flanc des croisés. Les chevaliers qui n'ont pas obtenu ainsi ce qu'ils souhaitaient s'en vont. Et Godefroy ne garde auprès de lui que Tancrède. Tancrède, profitant de la victoire remportée par Godefroy, parvient à s'emparer de la Galilée en retournant contre eux la tactique des musulmans, la tactique du Rezou. Et notamment, il va s'emparer du port de Caïfa, qui deviendra ensuite Haïfa, et qui va devenir un des ports importants pour les croisés, parce que c'est par là que vont arriver les renforts et le ravitaillement. Les musulmans, comprenant qu'ils ont le dessus, comprennent que les croisés sont venus pour rester, ils se font une raison et ils décident de faire contre mauvaise fortune bon cœur et d'accepter en quelque sorte la situation. Et pendant plusieurs mois, Godefroy de Bouillon va organiser le royaume franc, le royaume latin de Jérusalem. Il va en particulier fortement impressionner les chefs musulmans avec lesquels il va être en contact par sa simplicité. Il les reçoit dans une tente de bédouins, assis tout simplement à terre, comme le sont les bédouins. Il prend le mode de vie bédouin, tout simplement. Il se nourrit de lait de chèvre, de chamelle, etc. Et les chefs musulmans qui arrivent en grand appareil sont surpris de trouver un homme, le grand chef franc, aussi humble. Pendant ce temps, Bohémond, lui, est resté à Antioche. Lui, il était venu à la croisade, non pas pour délivrer les lieux saints, mais pour se tailler un fief. Bon, il a ce qu'il voulait, Antioche, mais ça ne lui suffit pas. Il cherche à donner de l'air à son fief et il va s'emparer du port de Latakié, qui était presque indispensable pour lui, justement, en cas de coup dur, pour avoir la possibilité de recevoir des renforts. Seulement, Latakié appartenait tout simplement à Byzance. Et Bohémond n'a pas hésité un seul instant à attaquer carrément des chrétiens d'Orient, n'est-ce pas, et s'emparer d'une ville qui leur appartenait, sans aucune vergogne. Seulement, c'en est trop quand même. Et Godefroy exige de Bohémond qu'il rende Latakié à Byzance. Et Bohémond est obligé de s'exécuter. Il s'agit maintenant non seulement de nommer un pouvoir politique, ce qui est fait en la personne de Godefroy, mais il faut nommer aussi un pouvoir religieux, car, somme toute, le but de la croisade était religieux. Et le pape nomme un homme particulièrement intrigant, patriarche de Jérusalem, il s'agit du patriarche d'Imbert. Il devient en quelque sorte vicaire du pape. Or, ce d'Imbert a de grandes ambitions. Non content d'être ainsi patriarche, nommé patriarche de Jérusalem, il rêve tout simplement d'être celui aussi qui conjugue entre ses mains le pouvoir religieux et le pouvoir politique, et il va intriguer pour tenter d'éliminer Godefroy. Peu de temps après la croisade, plutôt peu de temps après la prise de Jérusalem, le pape Urbain meurt, lui qui avait lancé la croisade. D'Imbert voit dans cette affaire-là l'occasion de donner suite à ses ambitions, et le 18 juillet 1100, Godefroy meurt brusquement. Godefroy de Bouillon. Brusquement, sans avoir été malade, sans quoi que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui, la mort de Godefroy reste mystérieuse. C'est une énigme historique qui n'a jamais été véritablement élucidée, mais il y a de fortes présomptions de penser que D'Imbert l'a empoisonné pour l'éliminer. Si telle était la réalité, D'Imbert avait mal calculé son coup. Il s'est rendu tellement odieux au chevalier par ses intrigues et par sa vie dissolue, que bien loin d'être nommé en quelque sorte en remplacement de Godefroy, il va se trouver écarté. Peut-être que certains le soupçonnent aussi dans l'entourage de Godefroy d'être celui qui a empoisonné l'avoué du Saint-Sépulcre. Toujours est-il qu'on propose la couronne de Jérusalem à Baudouin de Boulogne, comte d'Édesse, qui n'est autre que le propre frère de Godefroy de Bouillon. Et Baudouin accepte la couronne. Il devient le premier roi de Jérusalem. Mais en même temps, avec l'avènement de Baudouin Ier, comte d'Édesse, on peut dire que c'est la dégénérescence de la croisade qui commence. Et en même temps, son règne inaugure le XIIe siècle. Le XIIe siècle où déjà on peut commencer à faire un bilan de la croisade. En sorte que la croisade a déjà des conséquences qui sont à la fois négatives et qui sont positives. D'abord, un bilan au point de vue des chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient n'ont pas à se plaindre, outre mesure, de la croisade. Nicée leur a été rendue, et ça c'était essentiel, parce que Nicée était une ville qui était tout de même aux portes de Constantinople. De nombreuses autres villes prises par les musulmans leur ont aussi été rendues, c'est-à-dire jusqu'à Antioche. Et si Antioche elle-même leur échappe encore, c'est tout de même un soulagement extraordinaire par rapport à la situation hantée dans laquelle ils se trouvent. En 1118, les Byzantins récupèrent toute la côte sud de la mer Noire jusqu'à la frontière arménienne, soit toute la moitié occidentale de la Turquie actuelle. En fait, l'empereur Alexis a utilisé habilement les croisés. Ceci dit, il y a aussi des revers pour les Orientaux, car les Normands en particulier, non seulement lui ont subtilisé Antioche et refusent toujours de le lui rendre, mais également ils ont envahi une partie de la Grèce. D'autre part, la croisade va propulser sur le devant de la scène la République maritime de Venise, laquelle va voir dans la croisade sa grande opportunité d'expansion vers l'Est. Et l'expansion de Venise vers l'Est va heurter les intérêts économiques de Constantinople, et la rivalité entre Venise et Constantinople va, à partir de la première croisade et à partir du XIIe siècle, devenir permanente, jusqu'à la chute de Constantinople à la fin du Moyen-Âge. On peut dire également que dans l'Empire byzantin, profitant de tous ces événements, les Bogomiles, ces croyants dissidents de type évangélique dont nous avons déjà parlé, entrent en rébellion. Ils en profitent pour secouer le joug des orthodoxes. Et même, il trouve auprès de certains prélats des appuis. Enfin, les Grecs voient maintenant une coexistence difficile s'installer entre le rite byzantin et le rite latin, qui s'est installé lui-même en Orient. Pour pouvoir défendre les terres qui ont été conquises en Orient, les papes comprennent vite qu'ils ne peuvent pas compter sur les chevaliers. Les chevaliers, en effet, sont repartis, nous l'avons vu. Et il s'en est fallu de peu qu'après la prise de Jérusalem, cette dernière ne retombe entre les mains des musulmans. Si l'on veut que la croisade demeure et qu'il y ait une implantation de longue durée en Orient, les papes comprennent qu'il faut intervenir autrement. Et c'est ainsi qu'un certain nombre d'ordres vont être créés, des ordres monastiques, mais qui vont être des ordres monastiques très particuliers, ce seront des ordres militaires, des ordres de moines-soldats, c'est-à-dire d'hommes qui font les trois vœux monastiques classiques, pauvreté, chasteté, obéissance, mais dont la fonction n'est pas d'être des gens qui, comme les autres moines, prient dans des monastères ou bien prêchent, mais leur but, ça va être de défendre la Terre Sainte. Ils vont être des militaires, des chevaliers, des moines chevaliers, et en même temps, ils prononcent les serments de la chevalerie classique pour pouvoir défendre la Terre Sainte. Les deux ordres militaires essentiels qui sont créés à cette époque-là sont l'ordre des hospitaliers et celui des templiers. Les hospitaliers se reconnaissent à leur manteau noir qui est, sur lequel est brodée une croix blanche. En fait, le nom complet des hospitaliers est chevalier de Saint-Jean de l'Hôpital. C'est un ordre qui déjà a une existence avant la croisade. Comme leur dit leur nom, ce sont ce qu'on appelle l'ordre de l'Hôpital en abrégé. C'était des gens qui avaient pour mission d'aider les pèlerins, notamment les pèlerins malades, de les accueillir dans des hôpitaux ou tout simplement dans des hôtelleries pour leur permettre d'avoir un séjour à peu près convenable et leur fournissaient des abris. Et le premier rôle des hospitaliers, qui sont placés sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste, ça, d'où le nom de chevalier de Saint-Jean de l'Hôpital, c'est d'apporter des secours aux pèlerins. Et la Terre Sainte se couvre d'un réseau d'hôtelleries, d'hôpitaux, où les croisés, les pèlerins, qui vont maintenant affluer, évidemment, depuis que la Terre Sainte est entre les mains des chrétiens, vont pouvoir trouver de quoi se loger, de quoi se restaurer, et en même temps aussi, évidemment, d'être défendus contre les musulmans. Et tout naturellement, d'ordre hospitalier qu'il est, l'ordre des chevaliers de Saint-Jean évolue vers un ordre militaire. Le deuxième ordre qui est ainsi créé, c'est l'ordre des Templiers, ainsi nommé. D'abord, à l'inverse des hospitaliers, ils ont un manteau blanc sur lequel est brodée une croix rouge. D'ailleurs, c'est, quand on présente un croisé, c'est souvent un Templier qu'on représente. Ils sont créés en 1188, alors que les hospitaliers sont créés en 1048. Donc, voyez-vous, c'était avant la croisade. Tandis que les Templiers sont créés donc après la croisade, bien après la première croisade. Et leur caserne essentielle, alors c'est un ordre qui est uniquement militaire, hein, ils n'ont absolument aucune fonction de secours aux pèlerins, comme c'est le cas des hospitaliers, mais c'est un ordre militaire. Et leur caserne principale est située dans les écuries, ce qu'on appelle les écuries de Salomon, qui sont situées au sud de l'esplanade du Temple, d'où le nom de Templier. La mosquée qui a été construite par les musulmans est devenue une église, et les Templiers ont pour mission essentielle de la garder. Donc, chevalier du Temple ou simplement Templier. C'est Bernard de Clairvaux qui en 1128 leur donne leur constitution. Et voici donc le serment que prêtent les Templiers. Je jure de donner ma vie pour protéger les pèlerins, de ne jamais quitter le champ de bataille, à moins de me trouver dans une situation où je me trouve dans une situation devant un nombre supérieur d'infidèles de 3 contre 1. Puis enfin, beaucoup plus tard, il y aura un troisième ordre de moines chevaliers qui sera créé, les chevaliers teutoniques. Bon, les croisés, les occidentaux, les francs en Terre Sainte ne font pas bonne impression du tout. Que ce soit sur les musulmans ou que ce soit sur les chrétiens locaux. Ils se font remarquer par leur ignorance, par leur grossièreté et par leurs mœurs dissolues. Et c'est pourquoi la greffe prend très mal, notamment avec les chrétiens grecs, c'est pas les chrétiens locaux, de diverses obédiences, le courant ne passe pas du tout. Et ça va être une des raisons de l'échec de la croisade, une des nombreuses raisons de l'échec de la croisade, cette incapacité, cette intolérance des latins par rapport aux chrétiens locaux. Cette incapacité d'arriver à créer des relations courtoises avec eux alors que leurs intérêts étaient communs. Et somme toute, il y aura de véritables moments où les chrétiens grecs, les chrétiens orientaux seront satisfaits des victoires musulmanes. C'est des choses que nous verrons donc dans la suite du XIIe siècle. Et au début du XIIIe siècle, qui verra la fin de la croisade. Voilà donc, si vous voulez, très rapidement ce qu'on peut dire sur cette première croisade, qui est à la charnière entre le XIe et le XIIe siècle. La prochaine fois, nous verrons le XIIe siècle, proprement dit, en Occident, puis ses retentissements, ses prolongements en Orient. Voilà, est-ce que vous avez rapidement une ou deux questions à poser ?